Abdelwahed Sefsef, bonsoir.
Bonsoir.
On vous cueille à la sortie, c'est un triomphe, de votre nouvelle production à la Comédie de Saint-Etienne. C'est le 5e jour de représentation. Voilà, après cette pièce va partir en tournée. Ça s'appelle Khaldoun. Ma première question, c'était quel lien aviez-vous avec... Donc Khaldoun, c'est la Nouvelle-Calédonie, l'île. Et on sent qu'il y a un lien presque viscéral, qu'on ressent comme ça tout au long du spectacle.
Pour être tout à fait honnête, j'ai toujours cru que j'allais me découvrir un lien filial avec ces Algériens qui ont été déportés en Nouvelle-Calédonie, parce que c'est le sujet de la pièce. Et quand je suis allé là-bas, j'ai enquêté. Non, il n'y avait pas, en tout cas, pas de Sefsaf parmi les déportés. En revanche, selon toute vraisemblance, ma famille serait originaire de Béjaïa et aurait été déportée de l'intérieur, parce qu'il y avait des déportations radicales comme celle-là, c'est-à-dire on expédiait les révoltés de l'autre côté de la terre. Et puis d'autres façons de diviser en fait les grandes tribus, c'était d'éclater les familles. C'est pour ça que la famille Sefsaf en Algérie, elle est éclatée sur plusieurs régions de l'Algérie, jusque dans les régions les plus arides ou les plus montagneuses. Et c'était notre cas, puisque nous on a atterri pas loin de Borj Bouareridj, des montagnes de Thaourith, un petit village qui s'appelle Tefreg. Et donc dans l'histoire familiale, mon grand-père racontait que nous ne sommes pas de ce village et que apparemment, ce qui semblerait être le cas, c'est qu'on aurait été effectivement expédié là autour de 1871. Donc il y a une coïncidence probable que je ne peux pas certifier.
Vous êtes allé là-bas en Nouvelle-Calédonie, je vous ai suivi sur Facebook. Voilà, vous êtes resté en immersion là-bas quelques semaines.
En fait, on a fait deux voyages. Un premier voyage d'exploration, un deuxième voyage d'immersion, exploration.
En amont, vous aviez déjà un peu l'idée de l'histoire, enfin la chronologie des dates.
Quand j'ai lu le livre Kabyle du Pacifique de Mehdi Lalaoui, qui a déclenché mon envie de travailler sur ce sujet, je me suis dit que finalement, j'ai pour habitude de faire des projets où les histoires racontent ma dualité culturelle entre nord et sud, entre ma culture occidentale hérité du fait que je suis né sur ce territoire, et précisément stéphanois, et héritier d'une culture maghrébine. Donc je me suis toujours construit entre ces deux horizons, et mes projets ont toujours pour ambition d'illustrer cette quête identitaire, si je puis dire. Et donc, en l'occurrence, en imaginant cette histoire, ce qui m'a intéressé tout de suite, c'est le fait que ces Algériens rencontrent le destin des communards. Mmh. C'est là que je me suis dit, ok, j'ai vraiment un sujet.
Et donc, effectivement, le début de l'histoire, c'est trois peuples sur trois continents, trois révoltes, mais qui, en fait, vont en faire une seule.
Oui, c'est ça qui m'intéresse, c'est de raconter que l'histoire, c'est pas un grand récit national, facile, sans complexité. L'histoire de France, elle est extrêmement complexe. Elle est faite d'énormément de subtilités, elle est faite de conquêtes, elle est faite aussi de défaites. Elle est faite de circulation de population, et c'est intéressant, c'est important de le rappeler, de dire que cette idée d'une identité nationale qu'on imagine caricaturale, moi, ce qui m'intéresse, c'est de gratter derrière le vernis, de dire qu'est-ce que c'est être français. C'est d'abord, à mon sens, être l'héritier d'une histoire, qu'elle nous appartienne ou qu'elle ne nous appartienne pas. Enfin, dans le sens où, moi, je sais que l'histoire de France, elle m'appartient depuis 200 ans. Parce que la France est venue en 1858 en Algérie. Là, il y a une première connexion directe. Et puis ensuite, parce que, comme je le raconte dans le spectacle, les Algériens vont se battre à la bataille de Sedan aux côtés de Napoléon Bonaparte. Puis en 14-18 avec les tirailleurs algériens. Évidemment, d'autres tirailleurs. On pense évidemment aux Sénégalais, mais je veux dire par là que par rapport à l'Algérie. Ensuite, il y a évidemment Monte Cassino en 40. Ma famille a été directement impliquée dans toutes ces guerres. Et aujourd'hui, je pense absolument capital de rappeler ça, pas seulement en fait à ceux qu'on pourrait supposer comme étant les plus directement concernés, mais surtout à ceux qui l'ignorent, qui le nient ou qui l'ont oublié parce qu'on l'a un peu mis sous le tapis, aussi aux plus jeunes. Je m'intéresse beaucoup aux plus jeunes d'entre nous qui parfois ne se sentent pas français sans savoir pourquoi, sont un peu désœuvrés, sont capables des fois d'agir de manière insensée en allant dans la rue, en mettant le feu à des poubelles, etc. Parce que je crois sincèrement qu'il y a une histoire qu'on doit leur raconter, c'est leur histoire.
Oui, effectivement, c'est ça qui résonne aussi pour notre période actuelle, comme vous le disiez. Et du coup, cette immersion et donc le fait de raconter cette histoire, en quoi ça vous a peut-être vous touché, consolidé dans votre histoire personnelle ?
Moi, j'ai le sentiment que je me répare tous les jours en travaillant à mon métier. Mmh. C'est-à-dire que j'ai commencé avec beaucoup de manque de confiance en moi, de l'angoisse, de l'anxiété. Dès que je dépassais un certain horizon, j'étais tout de suite en panique. Et en fait, à force de construire ce qui est mon chemin artistique, je me suis rendu compte que je me réparais ici et là et qu'au fur et à mesure, j'arrivais à porter des projets de plus en plus ambitieux, disons. Mais c'est un chemin que j'ai pu faire parce que j'ai été éclairé par d'autres. Et aujourd'hui, j'essaie d'être à mon tour une lanterne éventuellement pour surtout les plus jeunes.
En tout cas, on l'a vu encore ce soir, vous arrivez à fédérer, à rassembler voilà, tout un tas de personnes. La salle était pleine, c'est la grande salle.
Ouais, et puis elle est pleine depuis 4 jours, c'est ça qui est assez formidable. Et du coup, ce qui me plaît aussi, c'est de voir de qui elle est pleine. Moi, je me bats pour la diversité, ce n'est pas un gros mot, parce que la France est diverse, elle est créole depuis toujours. Elle a inventé une langue au fur et à mesure de ses rencontres avec d'autres cultures, parce que la langue française. Je renvoie ceux qui auraient encore un discours un peu raccourci, je les renvoie à l'étude de la Pléiade. Rappelez-vous que la France, c'est un pays qui s'est grandi par sa capacité à intégrer d'autres cultures et le français est à l'image de ça. On nous rappelle très souvent l'héritage grec ou latin dans la langue française, c'est une absolue évidence, et pas très souvent l'héritage arabe, l'héritage anglais, tous les anglicismes qu'on a intégrés aujourd'hui ne posent aucun problème. Quoi. Moi, ça me pose pas de problème de manier cette langue-là. Je trouve qu'elle est belle de ça.
Alors justement, on peut peut-être parler des personnes qui ont existé. Donc il y a Aziz notamment. Alors est-ce que vous pourriez nous parler de qui est Aziz ? Parce que, en tout cas, moi je ne connaissais pas.
Tous les personnages ont existé. Et en fait, j'ai choisi moi ce personnage-là pour illustrer tous les Algériens déportés. Je me suis rendu compte à un moment donné qu'il fallait que je focalise sur un personnage et que ce personnage nous fait rencontrer les autres. Alors Aziz, c'est le fils du Cheikh Al-Haddad. Cheikh Al-Haddad, c'est un leader d'une confrérie religieuse, la confrérie d'Al-Ahmaniyya, qui est une confrérie très connue en Algérie, une confrérie soufie. Et en fait, quand Mokrani, qui a donné son nom à la révolte parce qu'il est le premier, il déclenche la révolte, mais en fait, Mokrani, il a 10 000 hommes. Quand il va lancer la révolte en prenant le fort de Borj Bouarej, qui est son premier fait d'armes, en réalité, le Cheikh Al-Haddad lui emboîte le pas en lançant l'appel au djihad parce qu'il voit le prophète en songe. Et là, c'est 100 000 hommes qui se lèvent. Simplement, le Cheikh Al-Haddad, lui, il va mourir assez tôt parce qu'il est vieux. Il a 85 ans quand il lance son appel. Et c'est en fait son fils, Aziz, qui va être l'héritier de son père dans tous les sens du terme et qui va donc être condamné au bagne à vie, d'abord condamné à mort. Tous les révoltés sont d'abord condamnés à mort, puis ensuite il y a un deuxième jugement au tribunal d'Alger qui va commuer les peines de mort en peine de bagne à vie. Parce que la France, à ce moment-là, a un certain pragmatisme, elle se dit « Ah, on a une autre colonie à peupler en Calédonie », et donc elle va opportunément commuer ses peines de mort, comme elle le fait pour les communards, en peine de bagne à vie, et elle envoie tout ce beau monde. Et c'est là ce qui m'intéressait, c'est qu'Aziz, du coup, en étant déporté, il rencontre par hasard, le destin des communards qui sont eux aussi des révoltés, qui sont révoltés 3 jours après la révolte algérienne. Il y a une coïncidence étrange, disons, à l'endroit des dates. Et ces communards vont rejoindre le sort des Algériens au fort de Kellerne, qui est le fort de la déportation, depuis lequel partent les déportés vers la Calédonie.